Contes et légendes iraniens. Une route persane exceptionnelle qui nous ouvre les pages d'un livre que l'on feuillette au gré des étonnants paysages variés et changeants de l'Iran. Une route qui déroule les fils de l'histoire de la Perse au gré des vestiges achéménites et sassanides et l'histoire de l'islam qui a cultivé ici le goût du paradis dans ses jardins poétiques et ses mosquées finement parées d'émail. Cette route est celle des contes et légendes iraniens. Par tradition, depuis l'Antiquité, les poèmes épiques iraniens se transmettaient oralement de génération en génération par les conteurs sans être véritablement consignés par écrit. Leurs contes s'inspiraient des histoires et légendes de différentes origines telles que le Khodainameh, livre des souverains, collection de chroniques sur la dynastie sassanide qui régna en Iran du 2e siècle après Jésus-Christ jusqu'à la venue de l'islam en Iran. Ils se sont également inspirés de récits séculaires provenant d'autres sources historiques écrites en langue dari, pahlavi ou arabe. Des transcriptions littéraires d'un certain nombre d'histoires apportent des indices sur la transmission de la tradition du conteur qui s'est poursuivie sans interruption jusqu'à la période islamique. Dans Veysoramin, écrit par Fakhreddin Gorgani au XIe siècle, une annotation raconte comment l'auteur a été amené à transcrire l'histoire sous forme littéraire. Cela laisse présumer que les histoires de la période pré-islamique sont restées populaires alors que leur forme a été modifiée pour que leurs adaptations littéraires correspondent aux changements de goût culturel. Depuis le 8e siècle, différents auteurs et traducteurs disséminés dans les pays de langues arabes et persanes, comme l'ouzbek, au milieu du 8e siècle, scribes persans au service du calife abbasside Al-Mansour, se sont mis à rassembler les livres du Khodainameh, comme à l'époque sassanide, et à les traduire en arabe. Jusqu'au Khodainameh, la légende nationale était transmise oralement et c'est après cette période que la tradition écrite a commencé à jouer un rôle. Les historiens iraniens musulmans se sont largement servis des traditions afin d'écrire une histoire universelle en accord avec l'idéologie islamique. Bien que considérée comme une tradition du Khodainameh, cette histoire universelle n'établit pas une chronologie correcte des rois persans. Et plusieurs autres versions différentes lui ont fait suite. Amobad, prêtre zoroastrien, nommé Bahram, dit avoir utilisé une vingtaine de textes pour établir une chronologie correcte, mais ces textes sont trop différents pour postuler à l'existence d'un modèle écrit plus ancien. Après avoir acquis leur indépendance politique au Xe siècle, les Iraniens se sont mis à composer des chroniques en persan moderne. C'est à peu près à cette époque, environ 957-958, que le gouverneur de Tous, Abu Mansour Muhammad al-Razak, ordonna à quatre auteurs et conteurs zoroastriens de composer un chant nommé « Le livre des rois » en persan moderne. Massoud Marwazi a été l'un des premiers à relater l'histoire de l'Iran pré-islamique en vers. Cette tradition de contes et de légendes se perpétua à travers les siècles et les poètes iraniens l'ont repris et l'ont remis au goût du jour. Saadi, l'un des plus grands poètes parmi les géants de la poésie persane, a largement eu recours à cette tradition. Auteur du Boustan, le Verger, du Golestan, le Jardin des Roses, Saadi est aussi l'auteur d'un grand nombre d'odes lyriques, d'élégies, de poèmes satiriques et de panégyriques. Avant de poursuivre notre périple à travers l'histoire des contes et légendes iraniens, je vous propose d'écouter en notre compagnie la traduction d'un conte tiré du Boustan. Le Boustan est un recueil d'histoires en vers poèmes et d'histoires écrites au XIIIe siècle. Il était une fois, dans les temps anciens, un homme dévot qui s'était entièrement voué à l'adoration et au culte du Seigneur, le Très-Haut. Il passait ses jours et ses nuits à prier le Créateur des cieux et de la terre et à servir ses créatures. Il sillonnait par tous les temps les rues et les ruelles de la ville en quête d'un malheureux ou d'un nécessiteux qui aurait besoin de son assistance. Tout le monde l'aimait et le respectait, y voyant un homme plein de vertu et de piété qui n'avait d'autre souci que d'aider ses semblables. Le temps s'écoulait ainsi pour notre homme pieux lorsqu'un beau jour ou une nuit de clair de lune, le narrateur ne le précise pas, notre homme vertueux buta sur un lingot d'or. Il fut à la fois si surpris et si joyeux qu'il resta un moment sans voix. Il ne pouvait en croire ses yeux. Un lingot d'or. Cet homme, qui avait passé sa vie dans la vertu et la dévotion, ne parvint pas pourtant à résister à la tentation de ce lingot d'or. Il fut dès lors corps et âme, le serviteur de l'or. Subjugué par l'or, il oublia totalement la vertu et la pitié, qui, tombant ainsi en disgrâce, n'eurent d'autre choix que de céder la place à l'avidité et à la cupidité. Depuis, notre homme, qui passait naguère ses nuits à adorer le Seigneur Tout-Puissant et à implorer son pardon, et le jour à aider autrui, n'avait qu'un seul souci. Réfléchir sur l'avenir prometteur qu'il attendait. La nuit comme le jour, il ne faisait que bâtir des plans, échafauder des projets. Il se disait « Je vais vivre désormais dans le faste et le luxe. Je vais faire ériger un palais plus grand et plus haut que tout autre palais. Toute une foule de serviteurs travailleront dans mon palais et me serviront. Je me reposerai tout mon soul. Ce sont les autres qui doivent travailler pour moi. Je pourrai dépenser sans compter puisque je roule dans l'or. Je dispose d'une fortune inépuisable. Je ferai réaliser tous mes vœux. Grands et petits. Et notre âme s'enchevêtrait ainsi, sans s'en rendre compte, dans les fils arrachenés de ses rêves, de sorte qu'il fut hanté par des pensées sataniques, oubliant la vertu et la piété. Bref, la foi et ses vertus humaines se consumèrent chez lui et il n'en resta que des cendres. Il n'avait en tête qu'une seule idée, comment dépenser sa fortune. Il avait perdu la sérénité qui faisait jadis son bonheur. Notre nouveau nanti passait les jours à se creuser la tête pour bâtir ses projets ambitieux, tandis que ses nuits étaient peuplées de cauchemars. Ce fut dans cet état d'âme qu'il décida de sortir de la ville et de se laisser aller pour quelque temps au sein de la nature. Il se promenait ainsi dans la campagne, se disant comme tout est beau aujourd'hui, comme tout le monde est heureux, jusqu'à ce qu'il arrivât à un cimetière. L'homme vertueux s'arrêta. Il aperçut un fossoyeur qui travaillait à quelques pas. Il ne pouvait pas détacher ses yeux du fossoyeur et de la tombe qu'il était en train de creuser. À cet instant, il commença à pleurer toutes les larmes de son corps, comme si cette scène avait déchiré le voile sombre de l'ignorance qu'il avait aveuglé. Il rougit de honte, passa la main sur son front et baissa la tête. Comment avait-il pu devenir si nul, si idiot? Il comprit sa grande erreur. Malheur à moi, si je m'étais laissé aller, si j'avais réalisé ces rêves si stupides et absurdes. Notre sœur à nous tous, n'était-il pas cette poignée de terre? Il se repentit devant la cour divine et distribua tous ses biens parmi les pauvres pour l'agrément divin.